comparaison pertinente et puis on a beaucoup évolué depuis. Alors c'est pertinent parce que Nuremberg, c'est l'un des premiers actes de cette justice pénale internationale qui en est à la préhistoire en réalité. Hein. On est tout au début d'un mouvement, c'est pour ça que quand on entend des critiques, on les comprend. Mais attendez, c'est en train de se mettre en place. Et donc Nuremberg, c'est le premier acte. Simplement, il y a eu des changements, des évolutions. La première, c'est qu'on essaye de mettre en place désormais une justice pénale internationale qui ne soit pas une justice des vainqueurs, comme l'était indubitablement celle de Nuremberg. Désormais, que la Russie gagne ou perde la guerre, eh bien, les mandats d'arrêt devant la Cour pénale internationale et devant cette juridiction tiendront. Et puis, deuxième évolution, maintenant, on en est à des juridictions qui sont le fruit d'accords avec des organisations régionales, donc comme l'Union européenne ou internationales, comme l'ONU. Donc, on a légèrement changé de méthode pour avoir une justice plus efficace.
Débat, nous appartenons, c'est pas forcément le cas ailleurs, à une culture dans laquelle la guerre fait partie des règles du jeu.
Nous, l'Europe.
Nous, Europe, oui, oui. Qui va devenir Euro-Amérique, pour lesquelles la guerre, comme le disait Clausewitz, qui est le maître à penser en matière de guerre, c'est le point d'aboutissement d'une rivalité politique. C'est le paroxysme de la rivalité politique. Donc, la guerre n'est pas culpabilisée dans la philosophie politique moderne, européenne et euro-américaine. Donc, tout le problème, c'est de réfuter, a priori, en disant, mais la guerre est un droit. Vous savez, c'est une très vieille histoire. Je citais Clausewitz, mais on pourrait citer Machiavel, qui disait... la guerre juste, c'est la guerre nécessaire. À partir du moment où vous démontrez que vous avez besoin de la guerre, eh bien c'est normal de le faire. Et Raymond Aron considérait que la paix, ce n'était qu'une entre-deux-guerres. Alors, si vous partez de ce postulat, qui est enraciné dans notre culture et notre histoire, pourquoi? Parce que quand l'État-nation moderne s'est formé, on est déjà là à l'époque de Machiavel, eh bien... il a été énormément servi
et
par
la
guerre.
Ça justifie ce tribunal aussi, alors, si on vous entend.
Alors, attention, tout le problème, c'est est-ce que la justice doit s'emparer des guerres mal faites, c'est-à-dire qui ne sont pas faites conformément au droit.
Au droit de la guerre.
C'est ce que on appelle le droit de la guerre, ou est-ce que la justice doit s'emparer de toute guerre parce qu'est-ce qu'on doit considérer la guerre comme étant en soi un crime contre l'humain, je ne dis pas contre l'humanité pour ne pas confondre les notions. Et cette question, non seulement n'est pas tranchée, mais nous sommes, comme vous le savez, dans une ambiance trumpienne qui considère que le politique est séparé du droit, qu'il a ses raisons propres et que donc nul n'est autorisé à condamner a priori la guerre.
Ils affichent leur mépris habituel, ils ignorent ces décisions, ils disent, voilà, Peskov, le porte-parole du Kremlin, ne veut pas commenter quand on lui pose la question frontalement, que pensez-vous de la création de ce tribunal? Il dit, nous ne commenterons pas. Inquiétude certainement. Ensuite, ils sont quand même en posture très officielle de ne pas reconnaître les décisions prises par les Occidentaux, de ne pas jouer selon les règles du droit international, de le bafouer, ça fait c'est leur droit à eux, en fait, ils sont au-dessus de cette justice-là. Donc, pour l'instant, ils continuent et ils font comme si ces décisions n'existaient pas.
Et dès qu'on
s'était rendu, Maria Belova a continué dans sa carrière, elle a reçu des prix.
Elle est toujours dans ses fonctions-là.
Dans ses fonctions, elle a pu adopter des enfants aussi, elle a poursuivi. Et les Russes continuent dans leur narratif qu'ils ont sauvé ces enfants, qu'il n'y a pas d'enlèvement réel, qu'ils ont arraché ces enfants à la guerre, ils leur ont donné un nouvel avenir. Et en fait, ils transforment complètement le discours. Et effectivement, cette condamnation n'existe pas pour le Kremlin.
Qui prouve que Vladimir Poutine tient tout à fait compte de ce mandat d'arrêt. Alors cet élément, il est subtil. Cet élément, c'est son attitude vis-à-vis de ses déplacements à l'étranger. Puisque la présidente mexicaine, le chef d'État africain, le chef d'État brésilien lui ont dit « Vous pouvez tout à fait venir sur notre territoire pour diverses réunions et manifestations, nous vous assurons l'immunité. » Alors Vladimir Poutine fièrement a dit « Je n'ai pas peur de ce mandat d'arrêt et je me rendrai au Brésil, en Afrique du Sud et au Mexique. » Et alors, à chaque fois, quelques jours avant, il annule finalement sa venue. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans ces pays-là, il y a tout de même, enfin il sait, parce que ses services de renseignement lui ont dit, qu'il y a tout de même une justice indépendante et qu'il risque l'arrestation. Donc oui, il a été en Mongolie. Eh bien, je pense que c'est exactement la preuve que c'est le seul pays où il peut se rendre.
Oui,
il pourrait se rendre aux États-Unis aussi, qui n'a pas ratifié.
Il a aussi été en Chine, en Amérique.
plupart des pays du monde, sur 193 États, vous en avez près de 150 qui ont ratifié le statut. Donc il est entravé dans ses déplacements et on le voit.
Bertrand Bell. Au début d'une histoire, et une histoire évolutive. Mmh. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale, c'est tout récent, c'est 1998. Mmh. Mmh. La notion de crime d'agression était dans le brouillard le plus absolu. Il y a eu quand même une conférence qui s'est tenue. Attendez, il y a une conférence qui s'est tenue à Kampala en 2010, je parle sous votre contrôle, et qui a introduit l'hypothèse de ce crime d'agression. Je dis hypothèse pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y a pas eu consensus. Et la France, par exemple, a été parmi les pays qui ont dit non, on ne peut pas reconnaître cette notion de crime d'agression. Deuxième élément, comment définir un crime d'agression ? Alors, une définition a été donnée à Kampala, elle a été intégrée dans le statut de la Cour pénale internationale qui définit le crime d'agression comme tout manquement à la Charte des Nations Unies en matière droit de la paix. Et par conséquent, la Cour pénale internationale peut s'en saisir, mais vous voyez dans quelle ambiguïté et quel flou. D'autre part, il y a un autre problème, c'est que la Cour pénale internationale ne reconnaît pas la procédure par contumace et donc ne peut pas juger Poutine, tandis que ce tribunal spécial pourrait le faire. Mais je voudrais quand même ajouter un tout petit point, qui est de dire, bien sûr, on lit toujours droit et sanctions. Oui. Et que, effectivement, à partir du moment où on ne peut pas appliquer un mandat d'arrêt, donc on ne peut pas l'exécuter, on considère que c'est un échec. Moi qui ne suis pas juriste, je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire, je dis le droit, bien sûr, sanctionne, mais le droit a une autre fonction qui est une fonction énonciatrice et stigmatisante. Et ça a un effet énorme. De dire que M. Netanyahou ou que M. Poutine font l'objet d'un mandat d'arrêt international, c'est une stigmatisation, un shaming.
Oui, mais alors justement...
Il n'a pas, quelles que soient les décisions prises par la communauté internationale extérieure ou les Européens maintenant, ça n'a pas l'air d'impacter le plan de Vladimir Poutine, qui de toute façon pour l'instant est engagé dans une paix qui n'a pas tellement de fin, dans une guerre qui n'a pas tellement de fin et d'horizon. On a vu que par exemple dans le plan de paix, les Russes ont glissé aux Américains dans les 28 points. Il y a cette amnistie, cet article sur l'amnistie totale de toute poursuite de tous ceux qui se seraient rendus coupables de crimes de guerre. Donc dans ce cas-là, ce serait effectivement un obstacle, mais ce document n'a jamais été adopté pour l'instant. Ce n'est pas il existe, mais ce n'est pas le plan de paix qui sera suivi. Et puis de toute façon, oui, pour l'instant, cette décision sert d'irritant pour Vladimir Poutine, mais comme vous l'avez dit, il y a ce qu'il affiche. Donc voilà, il continue à suivre son projet à lui. Il est irrité de l'intérieur, il peut être inquiet. Il peut se dire que ça va le limiter aussi dans ce qui sera après. Peut-être que ça influencera sa décision de laisser ou pas le pouvoir à un successeur, de s'accrocher plus longtemps au pouvoir au-delà de cette paix en Ukraine, de décider qu'il va rester au pouvoir, quelle que soit l'issue de cette guerre, jusqu'à la fin de sa vie, parce que la seconde où il quitte le pouvoir, parce que pour l'instant il a l'immunité en tant que dirigeant. Voilà.
Mais ici on a vu des images très symboliques. Alors d'abord peut-être je vais parler de l'Ukraine, mais très rapidement, l'Ukraine a beaucoup déçu puisque lorsqu'elle a adhéré à la Cour pénale internationale, elle a fait ce qu'avait fait la France aussi, c'est-à-dire qu'elle a exclu pendant 7 ans la compétence de la Cour pour les crimes de guerre. Je mets de côté, mais je voudrais insister sur le symbole que représentent les images qu'on a vues sur ces jeunes soldats russes jugés en Ukraine, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont jugés en pleine guerre. Donc c'est extrêmement difficile de rendre la justice en pleine guerre, et c'est là où une justice pénale internationale est très importante, parce qu'elle permet de décentrer.
Il y a un problème de légitimité selon vous ?
Pas de légitimité. J'ai beaucoup parlé lorsque j'étais en Ukraine avec les magistrats. C'est très difficile, mais ils font tout pour garder l'indépendance, et surtout on a le contrôle du Conseil de l'Europe, de l'Union Européenne, pour essayer, c'est ce que n'ont pas les Russes, d'avoir une justice qui corresponde donc aux garanties de la justice pénale. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce sont le menu fretin. Or, le tribunal dont on parle, c'est pour juger les hauts dirigeants, pour que ce ne soit plus que ces petits soldats qui eux-mêmes sont sont jugés responsables. Mais c'est très important. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important ce tribunal-là ? Parce que ce sont des Russes. Je crois qu'il faut qu'on rappelle que ce n'est pas un droit qui vient de l'extérieur. La Russie, c'est l'un des pays qui a le plus fait pour qu'on ait un droit de la guerre. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est Nicolas II et son envoyé, Frédéric de Mertens, qui a rédigé une clause que les États ont trouvée tellement juste au XIXe siècle qu'ils l'ont intégrée dans le traité qui est fondateur sur le droit de la guerre et qui dit qu'il faut tenir compte des populations civiles et même des combattants, de l'humain, dans la guerre. Et juste une deuxième chose, c'est un juriste soviétique.
Oui, qui a théorisé le crime d'agression.
Voilà, qui a non seulement théorisé le crime d'agression, mais il a pris un peu son bâton de pèlerin et il est allé convaincre les Américains qui n'en voulaient pas, les Anglais qui n'en voulaient pas, les Français qui n'en voulaient pas. C'est un crime russe que l'on reproche à Vladimir Poutine et que ce tribunal souhaite donc appliquer.
Sauf qu'on pourrait dire, pourrait peut-être enrichir ce débat, que la notion de crime de guerre et la notion de crime d'agression non seulement sont différentes, ça tout le monde en convient, mais sont peut-être en contradiction l'une avec l'autre. Parce que la base même du droit de la guerre, c'est-à-dire il y a des choses qui sont possibles pendant la guerre, vous pouvez tuer le soldat qui vous fait face, n'est-ce pas ? Et il y a des choses qui sont interdites et criminelles, c'est par exemple attaquer des civils. Alors,
sur la question de la légitimité, Bertrand.
Alors, justement, si vous admettez la notion de crime de guerre, ça veut dire que vous admettez la légitimité de la guerre et que donc vous défaites d'autant la notion de crime d'agression. Crime d'agression, c'est de dire la guerre, c'est le crime suprême. C'est ainsi que ça a été présenté, c'est-à-dire effectivement, en soi, la guerre est une atteinte aux droits absolument fondamentaux de l'humanité. Et donc, l'important dans la CPI et surtout dans la notion de crime d'agression, c'est de juger celui ou celle qui a décidé de la guerre. C'est la décision de la guerre, sauf cas extrêmement précis, légitime défense et, d'après la Charte des Nations Unies, une décision prise par le Conseil de sécurité sous chapitre 7. Mais à cette exception-là, effectivement, lorsqu'Israël et les États-Unis bombardent l'Iran, c'est un crime d'agression. Et c'est là qu'il doit y avoir jugement. Alors vous avez raison maintenant de dire que peut-être que à force de délégitimer et de refuser d'adhérer à des institutions, on vient les délégitimer. C'est tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact.
Que pourra dire Poutine ?
Juste vous dire quand même en une phrase que bien sûr la non-adhésion affaiblit l'institution, mais moi j'appartiens à une génération qui sait ce que c'est que l'absence totale de cour pénale internationale. Quand Brejnev et Nixon se faisaient face, le droit n'existait pas. Là, maintenant, désormais, il existe.
Alors, déjà, il le dira, il continuera à le dire parce qu'aucun autre tribunal ne peut le juger. Et puis, par ailleurs, c'est pas dans le droit juridique, mais pour les Russes et pour Poutine et dans la vision politique du monde russe, la guerre est constituante de leur vision du monde. Donc, la guerre n'est pas, alors peut être quelque chose qui doit suivre des règles et qui doit être encadré. Il y a des crimes, donc des crimes de guerre, mais le crime d'agression n'existe pas en soi parce que la manière.
Alors, il est quand même dans leur code pénal.
Oui, mais sauf que la manière dont ils construisent leurs relations internationales et leur rapport au monde et leur rapport à l'Occident et leur rapport à l'Ukraine, alors là on est dans un autre champ un petit peu, c'est via la guerre. Et la guerre est une action légitime et ensuite, eux, dans ce cadre-là, ils peuvent considérer qu'il y a des crimes de guerre, mais ils renversent tout. Ils considèrent que les agresseurs, c'est les Occidentaux, que c'est les Ukrainiens et qu'ils sont, eux, en légitime défense.
C'est juste la guerre illégale. Donc le crime d'agression, c'est simplement, entre guillemets, de déclencher une guerre illégale. Donc la guerre continue à être légitime. Alors, ça n'a pas changé.
Justement.
Hein.
Ou autorisation par chapitre 7.
Justement, vous avez travaillé avec Philippe.
Sur le coup d'après, mais en réalité, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que ce tribunal-là, il est indispensable pour pouvoir juger les guerres à la fois d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi ? Parce que si on ne juge pas ceux qui ont tout fait pour juger les autres, parce que la Russie de Vladimir Poutine, elle a tout fait pour juger les autres chefs d'État et les autres dirigeants. La Russie de Vladimir Poutine a toujours voté oui, que ce soit à l'Assemblée générale des Nations Unies ou au Conseil de sécurité, pour créer des juridictions spéciales qui ont pu juger notamment des chefs d'État. Donc c'est très important de juger cette Russie-là.
Et puis, certains diront, mais avec des canons occidentaux, vous voyez, c'est ça aussi
non,
le reproche.
Non, parce que, alors rappelons-nous de la guerre en Irak, excusez-moi de revenir à cela, mais c'est vrai que cette guerre, elle a été unanimement déclarée comme une guerre d'agression par les juristes et même à l'ONU. Eh bien, on se souvient tous, parce qu'on est français, du discours de Dominique Villepin. Eh bien, est-ce qu'on se souvient que le même jour, le vice-ministre des Affaires étrangères de Vladimir Poutine a fait un discours qui a eu tellement de retentissement pour dire que c'était une guerre d'agression qu'il a été aussi applaudi que notre Dominique de Villepin national. Donc, il faut se souvenir de qui est Vladimir Poutine pour le droit international. Il a contribué. Donc, si on ne juge pas ce chef d'État-là, comment peut-on ensuite juger un Netanyahou un Trump qui le refuse depuis toujours. Vous comprenez combien c'est important aujourd'hui ce qui se passe.